Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mardi, bon début d'après-midi. J'espère que tout se passe bien de votre côté. C'est Marianne Paquette au micro. Je suis là pour les 28 prochaines minutes. C'est l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Le vélo, il y a bien des enfants qui adorent ça. Et à peu près la plupart d'entre nous, on a de bons souvenirs liés. Du moins, peut-être premièrement, nos apprentissages en vélo, hein, quand on a appris à rouler sur deux roues, après nos quatre roues. Dans mon cas, c'était avec papa, que je salue, qui m'a aidé dans cet apprentissage-là. Il y a aussi des souvenirs liés au moment, randonnée en famille, randonnée à la campagne aussi en vélo. Et ce que l'on sait moins, c'est que la bicyclette pour l'enfant, ça permet beaucoup de choses. D'apprendre la perception de l'espace, la coordination, l'équilibre, les mouvements, tout ça. Pour un enfant qui vit avec une limitation, que ce soit une limitation fonctionnelle, motrice, intellectuelle, ça peut être un petit peu plus compliqué cet apprentissage-là pour leurs parents aussi. Et il est bien de savoir que Trivel est une jeune compagnie québécoise qui est du côté de Repentigny et qui a développé des tricycles orthopédiques pour les enfants. Et j'en parle tout à l'heure avec son propriétaire, Olivier Lajoie. Et pour débuter, peut-être un petit lien d'abord avec l'entrevue d'hier qu'on a fait avec Mohamed Ghoul. Lui qui, je vous le rappelle, offre des ateliers de percussion qui favorisent les habiletés sociales chez les jeunes autistes. Aujourd'hui, on parle encore de l'importance de la musique dans la vie des enfants. Je vous rappelle que la musique, c'est partie intégrante de nos vies, et ce, à tous les âges. Pour certaines personnes, ça prend beaucoup, beaucoup de place. Pour d'autres, ça peut être plus secondaire, mais pour... Encore une fois, la plupart d'entre nous, ça ramène à des souvenirs, hein? Un petit peu comme le vélo. La musique, ça ravive des émotions, ça nous amène à d'autres époques de notre vie, ça nous permet de nous défouler, de danser, de sortir notre fou aussi dans différents moments. Ce que l'on oublie, c'est que, et ça j'en parlais hier, la musique, c'est un langage inné, hein? Dès les premiers moments, même dans le ventre de notre mère, on vit avec la musique, avec les sons, avec la vibration, avec les rythmes. Et tout ça a des effets bénéfiques sur notre santé, santé émotive, santé physique, santé psychologique. Pourquoi la musique dans nos vies, dans la vie des enfants en premier lieu? J'en parle avec Monique Desiproux, sociologue, musicienne et auteure de ce livre « Pourquoi la musique? Son importance dans la vie des enfants ». Monique Desiproux, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Tout nouveau bébé sorti au CHU Sainte-Justine, pourquoi la musique, son importance dans la vie des enfants. Et Monique, hier, je parlais avec une professeure de chant qui me disait que la voix de notre mère, c'est extrêmement précieux, souvent lié à plein de souvenirs. Elle me disait elle-même qu'elle avait une mère qui avait une voix très, très grave. Les gens disaient dans l'entourage que sa mère chantait mal, mais pour elle, ça a toujours été la voix la plus fabuleuse. Vous faites aussi référence à votre mère dans ce livre-là, qui était une musicienne qui semblait être captivante, du moins captivante, votre père. Vous dites même que c'est grâce sûrement à la musique que vous êtes venue au monde. La musique, c'est notre premier lien avec le monde. En tout cas, c'est ce qu'on retient de ce livre-là.
Bien, c'est effectivement, comme vous l'avez dit dans votre présentation, en fait, les sons, semble-t-il que quand notre identité neuronale, en fait, au moment où il y a une explosion de la fabrication de neurones dans notre cerveau, c'est exactement à ce moment-là que le fœtus commence à entendre. Il y a vraiment quelque chose qui s'épouse entre notre développement le plus profond et l'écoute des sons. Alors, quand on est dans le ventre de notre mère, on entend sa voix, mais on entend aussi ses battements de cœur, puis tous les bruits de la circulation sanguine. Tout ça, ça se développe tranquillement, pas vite. Et le lien sonore avec la mère est très important. Quand l'enfant vient au monde aussi, on dit que le son est un lien. Hein. Si un enfant est, par exemple, sur une table en train de se faire langer, la mère s'éloigne. Si elle continue à lui parler, il existe un lien. Il n'est pas visible, mais il est réel, hein, le lien entre la mère et l'enfant quand elle lui parle.
Vous dites aussi, et ça assez rapidement dans le livre, que la musique, ça appartient à tout le monde, qu'on est peut-être tous des musiciens qui s'ignorent, que ça fait partie finalement de nous, de notre construction.
Ça, j'y crois profondément. Je pense que ça fait partie de l'identité humaine d'être. Nous sommes des êtres musiciens. C'est pour ça que je trouve que le fait de penser même de pas initier les enfants à la musique, je trouve que c'est une horreur parce qu'on est. Ça nous définit. Hein. Tous les humains de la Terre, de toutes les époques, dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, ont toujours fait de la musique. Et en fait, si on part de l'idée que l'être humain est un être musicien, bien, après ça, on peut peut-être démontrer de façon scientifique l'effet que la musique fait sur nous à toutes sortes de points de vue, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, mais en fait, ça fait partie de notre essence même d'être des êtres musiciens, des êtres nous avons une dimension sonore et nous avons la capacité de manipuler les sons et d'en tirer des plaisirs et de leur donner des significations. En fait, la musique est complexe, mais nous sommes faits pour la musique.
On y reviendra très certainement, l'apport bénéfique de la musique sur la santé physique. Mais avant, je veux parler de ce savoir-être que peut procurer la musique. Il y a une section dans le livre qui est sur la musique et l'entraide. Et il y a eu des études comme quoi la musique pouvait favoriser même l'entraide chez les humains.
Absolument, oui. Même à ma grande surprise, en faisant ma recherche pour écrire ce livre-là, j'ai commencé par la dimension sociale pour m'apercevoir que finalement, les chercheurs, par exemple, Isabelle Peretz, qui est une chercheure très reconnue, internationalement reconnue, qui est la directrice, une des directrices du BRAHMS, qui est un laboratoire de recherche sur la musique et le cerveau, ici à Montréal. Et elle-même affirme que finalement, enfin, les chercheurs en arrivent à comprendre que si la musique a existé chez les humains à travers les temps, à travers les cultures, c'est probablement parce qu'elle sert à nous unir. Et on avait besoin d'être unis, nous, les humains, parce qu'on n'est pas très bien armés comparativement à des ours ou à des léopards qui courent vite. Nous, on ne court pas vite, on n'a pas de crocs, on n'a pas de fourrure, on est vraiment désarmés. Mais alors, il fallait s'unir. C'est ce qui a fait notre succès qui est en train de devenir dangereux, même pour la planète. Mais ce qui a fait qu'on a survécu puis qu'on s'est multiplié, c'est probablement parce qu'on chantait et on dansait ensemble. Parce que quand on chante et on danse ensemble, il se développe en nous, selon des études qui ont prouvé que quand on chante et on danse ensemble, il se développe des hormones qui sont, entre autres, il y a une hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui est une hormone qu'on surnomme l'hormone de l'amour, et qui est la même hormone qui sert lors de l'accouchement et qui favorise
l'attachement entre la mère et l'enfant.
Qui favorise des liens d'affection entre les gens. Alors, quand on chante et qu'on danse ensemble, on ne peut pas haïr les gens avec qui on chante et qu'on danse.
Mais lorsqu'on vous écoute, on fait un lien très, très direct avec la création du blues, par exemple, là, qui a été, je ne pense pas me tromper, cette espèce de musique des esclaves dans les États-Unis du Sud. Là.
Absolument, absolument. C'est des gens qui arrivaient d'Afrique, qui arrivaient d'un peu partout en Afrique, qui utilisaient différentes gammes pentatoniques, mais en les réunissant ensemble, ça a donné la gamme blues. Mais ça, c'est vrai pour tous les peuples de la Terre. Hein, les chants ont servi aux femmes à aider les gens à travailler, aux femmes à tisser, à moudre du grain, aux rameurs à ramer. Le chant a contribué à aider les gens à travailler durement tout au long de leur existence, tout au long de l'existence des humains, en fait.
Vous disiez, Monique, que pour vous, c'est pas concevable, entre guillemets, je veux pas mal vous citer, qu'on initie pas les enfants à la musique. Donc, tous les enfants peuvent être initiés à la musique.
Absolument, bien sûr. Autant que tous les enfants peuvent parler, il faut vraiment être très, 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 très handicapé pour considérer qu'un enfant parlera jamais. Mais de la même façon, je trouve qu'il ne devrait pas être question qu'on n'initie pas les enfants à la musique.
Et d'ailleurs, vous avez dit le mot handicap, handicapé, même les enfants handicapés dans votre livre, que ce soit même des enfants non-voyants, même malentendants, peuvent être initiés à la musique.
Absolument, absolument. Je cite un exemple pas mal formidable d'une fille qui s'appelle Evelyne Glennie, qui a étudié en Angleterre. Je ne sais pas si elle est anglaise ou irlandaise, je ne me souviens plus trop, mais elle est sourde, puis elle a voulu faire de la musique, puis elle a supplié un professeur quand elle était adolescente de lui enseigner la musique. Et au début, il a dit, mais comment je peux enseigner à quelqu'un qui est sourd? Mais elle lui a dit, mais je veux. Alors finalement, elle lui a enseigné à sentir les vibrations de façon tellement fine qu'elle était capable, avec les doigts, en se mettant tout d'un piano, en touchant un violoncelle, une contrebasse, avec les doigts, en touchant les murs, à distinguer les différents intervalles. C'est évidemment pas quelqu'un qui est complètement sourd, parce que moi, je l'ai entendu faire une conférence, puis elle s'exprime bien, donc elle n'est pas complètement sourde, c'est sûr. Mais c'est une musicienne exceptionnelle. Je l'ai entendue dans une conférence TED. Elle joue une musique très, très bien là, sur des percussions, mais là, elle dit, bon, ça, c'est des notes. Maintenant, on va faire de la musique avec ça. Elle reprend la même musique en lui mettant tout son cœur, toute son âme, et c'est tellement bon. Elle a gagné des prix internationaux pour des disques qu'elle a enregistrés de musique très complexe. C'est une musicienne formidable et elle est sourde. Elle a réussi avec son... après avoir étudié adolescente avec ce professeur-là qui a finalement l'a pris sous son aile, elle s'est présentée au Conservatoire de musique de Londres et au début, elle ne voulait même pas l'entendre en audition parce qu'elle était malentendante. Puis elle a dit « Écoutez-moi, puis vous jugerez après ». Et son intervention a fait en sorte que désormais en Angleterre, dans le Royaume-Uni, en fait, on ne peut plus refuser dans les conservatoires, dans les grandes écoles de musique, d'entendre quelqu'un. On l'entend et ensuite on décide si la personne peut ou non être acceptée.
On parlait tout à l'heure que la musique peut servir à sécréter différentes hormones, sérotonine également, peut même aider à contrer la grippe, le chant choral,
ouais,
entre
autres. Oui, ça, c'est une étude extraordinaire que j'ai trouvée bien amusante. C'est comme maintenant, on peut faire des expérimentations à partir de la salive, ce qui fait que c'est facile d'expérimenter. On prend des extraits de salive avant une répétition et après, puis on fait la comparaison. Et c'est une... moi, je ne suis pas une spécialiste là, de neurologie, mais... je me souviens plus de la... Il y a une hormone, je ne sais pas si vous l'avez...
Je l'ai pas sous les yeux.
Sous les yeux, mais une hormone, entre autres, qui est sécrétée particulièrement quand les gens chantent. Alors, on voit une augmentation de cette hormone-là avant et après la répétition. Et on a fait l'expérience avant et après un concert. Mais là, c'est formidable. Après un concert, ça peut monter jusqu'à 300% d'augmentation. Puis ça, cette hormone-là, elle est... c'est une hormone qui favorise le système immunitaire et qui, en particulier, lutte contre la grippe. Alors, il y a un psychiatre à l'hôpital Sainte-Justine qui me disait, moi, qui est dans la chorale, il me disait,
c'est vrai, mais oui.
Quand les gens me disent, je ne peux pas aller répéter à la chorale parce que je pense que je vais faire une grippe, il leur dit, mais au contraire, venez répéter, c'est le meilleur moyen de lutter contre la grippe.
On voit les vertus de la musique, que ce soit dans la vie des adultes, dans la vie des enfants, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a eu aussi des données qui démontraient que la musique pouvait aider des enfants qui sont en trouble d'apprentissage ou aussi à favoriser de meilleurs résultats scolaires.
Ah, ça, c'est clair. Il y a beaucoup de monde qui se sont penchés sur cette question-là. Beaucoup de chercheurs, on s'est demandé... La question fondamentale, c'est est-ce que la musique rend plus intelligent, oui ou non?
Ouais.
Mais ça, c'est la grande, grande, grande question à laquelle il est très difficile de répondre. Mais il y a beaucoup d'études qui sont incontestables où on voit que les enfants qui font de la musique de façon générale, réussissent mieux à l'école. On se dit que c'est probablement parce que la musique développe l'acuité auditive, entre autres. Ça, c'est une des pistes qu'on peut suivre. Ça développe l'acuité auditive. Donc, l'enfant entend mieux. Déjà, il entend mieux. Il perçoit mieux les nuances d'intonation dans ce qu'un professeur va dire. S'il y a des choses complexes, comme il y a une chercheure aux États-Unis qui dit l'enfant qui est musicien décode plus facilement les passages... simple, donc il lui reste plus d'énergie pour décoder les passages complexes, parce que les passages simples, c'est comme acquis.
Ah, c'est intéressant, ça.
Alors, ici, il y a du bruit, par exemple, à travers du bruit, il va mieux percevoir les consignes. Et ça, là, tous les gens que j'ai rencontrés me disent que quand ils sont dans des écoles, qu'ils enseignent, mettons, les mathématiques, le français, la géographie, n'importe quoi, quand ils voient arriver des élèves qui sont des musiciens, tous sont d'accord pour dire que quand ils voient arriver les élèves musiciens, c'est du gâteau pour eux.
Mais il y a l'estime de soi aussi, de connaître un instrument, de le maîtriser également. L'empathie, j'imagine que ça doit favoriser parce que la musique nous met en contact avec des formes d'émotions.
Oui, absolument. Puis aussi, la musique, c'est une des affaires que ça peut développer qui est essentielle, c'est l'écoute.
Mm-hmm.
Parce que jouer d'un instrument, c'est quelque chose, mais avant même de jouer d'un instrument, c'est une des choses dont je parle dans le livre, puis qui est une de mes marottes, c'est parce que je suis allée dans des écoles, puis je vois qu'on s'empresse, à mon avis, trop rapidement de montrer aux enfants, quand ils font de la musique, clé de sol, clé de fa, accord majeur, accord mineur, tout le langage musical, technique, finalement. Mais moi, je dis, bien avant ça... Ce qui est important de développer, c'est le comportement musicien. Puis dans le comportement musicien, il y a de façon essentielle l'écoute. Alors, l'écoute, ça dit beaucoup. Et l'écoute, c'est l'ouverture à l'autre, c'est l'ouverture à soi.
Mais on revient au savoir-être de tout à l'heure, dans l'entraide, je trouve.
Absolument. Puis faire de la musique ensemble, c'est un plaisir. Puis ça unit les gens, puis ça oblige à... à écouter, justement, à prendre sa place aussi. C'est pas juste d'écouter puis de laisser la place à l'autre, mais prendre sa place. Quand on chante ou qu'on joue dans un groupe, il vient à un moment donné, c'est à nous, soit à partir le bal ou à faire un solo, ou à se faire entendre, alors il faut prendre sa place.
Donc, je vous entends et ce que je reçois, c'est qu'il faut peut-être revoir notre façon d'initier les enfants à la musique, que ce soit en institution scolaire et à la maison, comment on peut le faire?
Absolument. Moi, je crois, il y a quelque chose à quoi je crois beaucoup, c'est que la musique, fondamentalement, c'est chanter et danser. Mm-hmm. Alors, tu sais, ça prend pas beaucoup d'argent. Souvent, les gens disent on n'a pas d'argent. Mais voyons, on n'a pas besoin d'argent. On a besoin d'un local. On a besoin de quelqu'un qui fait chanter. Un enfant qui a chanté dans son enfance, il a fait de la musique. Ou un enfant qui a dansé, il a fait de la musique. Il y a un grand improvisateur de jazz qui s'appelle Cecil Taylor. Puis un jour, il y a quelqu'un qui l'a interviewé en lui demandant « Est-ce que votre père était musicien? » Cecil Taylor dit « Absolument. Il jouait des casseroles. » Il avait raison de dire que son père était musicien. Alors, moi, je pense qu'il a développé d'abord le comportement musicien. Comportement musicien, c'est... qu'est-ce que c'est fondamentalement dans toutes les cultures du monde? Parce qu'il y a des musiques très différentes. Hein? Les femmes inuites qui font des chants de gorge et puis Chopin, c'est pas pareil. Ouais, mais pourtant, dans les deux cas, c'est de la musique. Qu'est-ce qui unit toutes les manifestations musicales? C'est ce comportement musicien qui consiste à émettre des sons, à les écouter, à s'en servir pour s'exprimer, à exprimer quelque chose, des sentiments, des émotions, et à manipuler ces sons-là. Et tout ça, bien évidemment, c'est tout parcouru par l'écoute, mais le comportement musicien, c'est ça, fondamentalement. Et on peut avoir ça en jouant avec des sons. Moi, je viens juste de donner un atelier d'initiation à la musique en fin de semaine dernière, puis j'ai fait ça avec des pots de yogourt. J'avais apporté une cinquantaine de pots de yogourt vides, et là, je demandais aux gens de créer des événements sonores, simplement une trame sonore. Alors là, il n'y a pas question de briser un instrument, il n'y a pas de crainte. C'est un peu comme en art plastique.
Tout le monde peut en avoir aussi.
Tout le monde peut en avoir. Puis c'est un peu comme en art plastique. On a cessé en art plastique d'attendre que les gens connaissent les lois de la perspective pour pouvoir peindre. Les enfants, on leur donne un pinceau puis ils s'amusent avec les couleurs. Alors, de la même façon, les enfants peuvent s'amuser avec les sons en se rendant compte qu'il suffit de produire des sons, de voir ce qu'ils expriment, d'explorer les possibilités d'objets, des possibilités sonores d'un objet donné et de manipuler tout ça pour transformer, créer des événements sonores. Et le chant puis la danse, c'est tellement simple et c'est tellement fondamental parce que quand on joue d'un instrument, ceux qui aiment tellement ça, faire de la musique, ils peuvent après ça continuer de développer en apprenant un instrument. Mais quand on joue d'un instrument, quand on joue du piano, par exemple, ce qu'on se fait dire par nos professeurs, c'est « fais chanter ton piano, fais chanter ta flûte ». Alors, c'est quoi la base? C'est le chant. Et puis le rythme, tout le rythme qui anime la musique, ben, on le trouve dans la danse. La danse, c'est le fondement du rythme. Hein? Alors, je trouve je suis allée dans des écoles, j'étais désolée de voir à quel point on est encore à apprendre clé de sol, clé de fa, des choses que des fois les enfants, fait une autre affaire à apprendre.
Peut-être que ça les allume moins un peu aussi.
Puis, il faut que la musique se fasse dans la joie. Chanter puis danser, c'est simple. Il y a des pays ou des approches comme par exemple Kodály en Hongrie. Et lui, il dit, avant d'apprendre un instrument de musique, l'enfant doit avoir chanté un certain temps avant même de commencer à être initié à un instrument de musique. Les enfants en rient, ils chantent. Puis c'est ce que je trouve que je voudrais préconiser, moi, qu'on fasse chanter et danser les enfants.
Et avant de chanter ou de danser, souvent, ça passe par l'écoute aussi. Donc, à la maison, on ouvre simplement la radio, on met un CD que la famille aime et ça peut juste démarrer comme ça.
Absolument. Puis vous avez dit le mot-clé que la famille aime. C'est le fait d'aimer ça. Bien, quand on aime ça, on chante. On bat du rythme, on répète les paroles, on leur chante dans l'auto, ça crée un lien et ça fait la job.
Monique Desipro, je rappelle, vous êtes l'auteur de « Pourquoi la musique, son importance dans la vie des enfants », c'est publié au CHU Sainte-Justine. J'ai beaucoup apprécié cette lecture. J'ai trouvé que c'était très émouvant par passage, mais en même temps très rigoureux. Donc, vraiment une belle mixité entre la rigueur scientifique, je dirais, et ce côté beaucoup plus humain, artiste. Vous dites même que ça pourrait plaire à des poètes.
Ah bien, merci beaucoup. C'est exactement le but que je visais en l'écrivant, c'est de partir. Je partais d'une intuition, puis je voulais l'asseoir sur des données scientifiques. Et c'est ce que j'ai cherché à faire tout le long du livre.
Et c'est un très, très bon outil, autant pour les parents que pour les enseignants et les musiciens. Je rappelle, vous êtes également sociologue et musicienne, justement. Mmh. Merci beaucoup de votre passage.
Bien, ça me fait plaisir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Olivier Lajoie, bonjour.
Bonjour.
Êtes-vous venu à vélo?
Ah, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé venir à vélo.
Je dis ça parce que vous êtes propriétaire de cette compagnie basée à Repentigny-Trivelle qui offre des tricycles adaptés pour les enfants qui vivent avec un handicap physique ou intellectuel. Vous êtes ingénieur mécanique, c'est ça, de base, Olivier, mais un passionné de vélo. Est-ce que vous pensiez à un moment donné dans votre parcours offrir au grand public des vélos adaptés, des vélos orthopédiques?
Non, disons que dans mon profil... dans mon parcours professionnel, c'était pas prévu de me retrouver dans le secteur du vélo, mais écoutez, je suis tombé par hasard un peu dans ce domaine-là. Et puis c'est là que j'ai vu que mon parcours d'ingénieur mécanique me sert beaucoup au niveau de la fabrication puis de l'innovation de différents produits. Puis je suis très content là, de tout ce qu'on fait. Là.
C'est une clientèle qui est bien sûr particulière, en tout cas du moins qui a des besoins particuliers. À quoi ressemblent les familles, les parents qui viennent vers vous? C'est-à-dire, quels sont leurs profils?
Ah, c'est une bonne question. On rencontre beaucoup de familles partout au Québec et même partout au monde même. Et puis, ça varie beaucoup. Donc, on a des enfants qui ont simplement un autisme qui peut être léger, problème de déséquilibre. Donc, un certain défi à ce niveau-là. Donc, nous, notre défi, c'est vraiment de fabriquer un tricycle qui va avoir de l'air cool, entre
guillemets. Ben oui, c'est important,
faire
ça.
Du vélo avec les amis, être bien, c'est très important. Donc, on essaie de faire des beaux produits, des produits aussi qui répondent à des besoins et qui vont encore un peu plus en profondeur. Donc, on a une clientèle qui est en fauteuil roulant.
Oui.
Oui, donc, qui ont une certaine force motrice au niveau des jambes. Et qui désirent aussi avoir amélioré un petit peu leur tonus musculaire des jambes. Donc, ils vont utiliser le tricycle comme un outil de réadaptation ou comme un outil afin d'améliorer ou de créer un petit peu de nouvelles fibres musculaires. Mm-hmm. Donc, on fabrique des tricycles autant pour les enfants à partir de 3 ans ainsi que les adolescents et les adultes.
OK. Donc, pas seulement pour les petits. C'est important de le dire, oui, vos vélos sont vendus au Québec, oui, mais au Canada, aux États-Unis. Et ce que j'entends, Olivier, c'est que, oui, faire du vélo, il y a un côté émotif aussi à ça.
Ah,
faire partie de la gang, pouvoir accompagner les amis,
pouvoir
se déplacer, mais ça va au-delà de ça et c'est important, ça répond à un besoin important pour les enfants.
Oui, vraiment.
Et puis, le vélo aussi, en même temps, et je le disais tout à l'heure en introduction, ça permet le développement de la coordination, de l'équilibre, de la perception. Est-ce que vous voyez les améliorations? Parce que, bon, je sais, vous êtes du côté marketing, mais est-ce que parfois vous revoyez les améliorations du côté de vos clients?
Bien, j'ai la chance aussi d'aller dans plusieurs salons aux États-Unis dans lesquels on rencontre des familles, des physiothérapeutes. Mais nos plus belles histoires sont vraiment quand que des familles se présentent et puis là, on les rencontre et puis on disait, écoutez, vous pouvez pédaler à vélo. Puis c'est quelque chose qu'ils avaient tout simplement pas imaginé. C'est quelque chose qui s'était dit, jamais je pourrais pédaler, me déplacer par moi-même. Et le sourire et le visage des gens, des enfants et des familles, des parents qui voient leur enfant se déplacer par eux-mêmes, pour certaines fois, c'est pour la première fois, ils vont se déplacer par eux-mêmes, avec les jambes, C'est vraiment émouvant, puis c'est vraiment beau de voir les sourires. Là. Mm. C'est vraiment touchant.
Vous avez dit tout à l'heure que le vélo peut servir sur un volet de réadaptation, mais mm-hmm. j'imagine que parfois, il y a un volet de prévention aussi pour, par exemple, prévenir l'atrophie musculaire ou autre chose.
Certainement. Donc, surtout quand on est dans une période de croissance, quand on est enfant, c'est vraiment un outil qui est utilisé pour ça, justement. Vous avez bien ciblé l'atrophie musculaire.
Mm-hmm.
Donc, les physiothérapeutes l'utilisent beaucoup, autant dans les écoles, les centres de réadaptation. Donc, nous, on parcourt toutes les écoles au Québec, puis on le voit des fois, là, des stationnements de vélos dans les corridors. C'est vraiment impressionnant.
Les vélos
récréations, vélos Trivel, certainement, les vélos innovateurs Trivel. Donc, c'est beau de voir ça, des stationnements de vélos.
Est-ce que il y a un soutien financier? Parce que est-ce que c'est plus cher? J'ai aucune idée. Est-ce que c'est plus cher qu'un vélo qu'on prend au Canadian Tire, par exemple?
Oui, c'est sûr que c'est un bon point, hein, parce qu'on parle d'un équipement. Dépendamment du niveau, on va être un équipement qui va être fait sur mesure. Tous nos tricycles sont fabriqués à Repentigny,
okay.
à la main. Nos fournisseurs sont du Québec, des rembourreurs, couturiers, donc différents fournisseurs, tous du Québec. Ce sont des produits aussi qui sont vraiment adaptés en fonction des défis de chaque enfant, adulte ou adolescent. Donc, il y a un certain prix qui vient avec ça. Aussi, le service qu'on donne, donc de rencontrer les personnes, tous les tricycles, on doit rencontrer le client, on doit rencontrer la personne qui va le pédaler.
Et si moi, j'aime le mauve, vous allez me faire
un
vélo
mauve. On va vous le faire mauve, hein, oui. Si vous l'aimez rose avec des flammes, on va vous le faire, on va le faire comme ça.
C'est fantastique, Olivier. Mais quand le petit de 3 ans arrive, qu'il a, bon, que ce soit une limitation physique, intellectuelle, bon, il est client chez vous, à un moment donné, cet enfant-là a 7 ans, 16 ans, 21 ans, alors vous continuez à faire des vélos.
Oui, certainement. Avant, on avait une gamme, on a une très grosse gamme de produits. On a 11 tricycles à offrir à nos clients, en plus de tricycles qui ne sont pas fabriqués chez nous. Mais vers où on s'en va dans nos innovations de produits, c'est qu'on essaie de faire des produits qui durent très longtemps.
Uh-huh.
Donc là, on a 2 produits innovateurs qui permettent de réduire le nombre d'achats de vélos. Tantôt, vous parliez de programme, c'est très important. Autant, il y a des subventions qui sont données au Québec, c'est unique, puis c'est une très belle plateforme. Qu'on souhaite qu'ils continuent aussi. C'est des subventions gouvernementales du Québec. Puis aussi, il y a beaucoup de fondations qui viennent en aide, autant au Canada qu'au Québec aussi, certaines fondations.
Mm-hmm. Et en terminant, Olivier, j'imagine qu'il y a une équipe là, derrière vous,
oui.
chez Trivel.
Mm-hmm.
Vous travaillez, j'imagine, avec des physiothérapeutes, des kinésiologues?
Ah, bien disons, l'expertise vient un peu avec l'expérience. Hein, à force de rencontrer des personnes, c'est là qu'on va innover des pièces. Puis avec les conseils des physiothérapeutes, autant dans les écoles que les centres, c'est vraiment là qu'ils vont nous mentionner qu'est-ce qu'ils aimeraient. Puis on innove tout le temps. Tous les mois, on a des nouveaux petits produits ou des nouvelles améliorations qui sortent.
Mais on va les suivre, ces innovations-là, Olivier Lajoie, parce que ce sont vraiment des vélos qui servent à bien, bien des besoins pour des familles qui ont des enfants avec des besoins bien, bien particuliers. Olivier Lajoie, je rappelle, vous êtes propriétaire de la compagnie Trivel du côté de Repentigny, mais vendu un petit peu partout au Québec, au Canada, aux États-Unis. De très, très beaux vélos orthopédiques. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.
Mathieu Tessier à la mise en onde, Christiane Campagna à la recherche, Marianne Paquette au micro. Demain, on reçoit Patrice Godin, on parle d'ultra-marathon, lui qui court des 160 km. On va voir ce qu'il y a à nous dire. Rendez-vous demain, d'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.